Nous sommes donc dans la seconde contamination. Vous venez de voir l'image de ce soldat qui donne son sang. Nous avons maintenant le plan de mes trois contaminations. On a vu le traumatisme de la passion. Alors maintenant, nous allons rentrer dans une partie délicate. C'est l'invasion du vocabulaire du droit féodal. C'est une autre contamination qui s'est révélée très efficace et très durable, hein, qui dure encore jusqu'à aujourd'hui. Et elle a été apportée au Moyen-Âge par un homme pourtant très remarquable, qui est Saint Anselme. Donc le voilà. Saint Anselme est abbé du Bec-et-Loin en 1078, mais il part 10 ans après pour Canterbury, dont il est l'évêque pendant 20 ans. Il écrit le Monologium, le Proslogion, qui sont des écrits parfaitement intéressants entre la théologie et la mystique. C'est très poétique aussi. Hein. Il y a dans le Proslogion un des premiers essais de prouver l'existence de Dieu. Vous savez ce que reprendra René Descartes plus tard, hein. C'est ce qu'on appelle la preuve ontologique. Et puis, dans le Cur Deus Homo, qui est un texte moins mystique, plus embarrassé, disons, de logique humaine, c'est là qu'il traite de notre sujet. Il emprunte complètement à la logique de son époque. Vous voyez, comme tous les bons théologiens. Un bon théologien, c'est pas quelqu'un qui répète sans cesse les mêmes choses. Hein. C'est quelqu'un qui essaye d'adapter aux mentalités, au vocabulaire, bref, au milieu de vie de son époque. Et donc, il dit, s'il y a mise à mort du Christ, malgré la toute-puissance de Dieu, alors c'est que Dieu l'a voulu. On dirait, aujourd'hui, qu'il a laissé faire. Bon, bah ça, il va falloir l'expliquer quand même. Hein. D'ailleurs, il y aurait à expliquer et à revisiter complètement la notion de toute-puissance de Dieu, qui elle-même est très chargée, très lestée de contresens. Hein. Alors là, bon, je ne peux pas tout faire, hein. Peut-être que vous l'avez fait dans le premier cours sur la révélation chrétienne. Sinon, vous pouvez aller regarder dans YouTube, sur YouTube, un document que j'ai fait quand je travaillais pour la télévision KTO, une émission qui s'appelait Kézako, c'est toujours disponible, hein, c'est toujours soit sur KTO, soit sur YouTube. Vous cherchez l'émission Kézako, Bernard Clazen, le Tout-Puissant, ou Dieu Tout-Puissant. Et là, vous aurez une explication assez brève. Hein. L'intérêt de l'émission Kézako, c'était que c'était des espèces d'émissions flash. Donc, reprenons. En passant à l'image suivante, avec ce Dieu tempétueux dans les nuages. Parce que Dieu, voilà la logique de Saint Anselme, la logique de son temps. Parce que Dieu est offensé par notre péché, par la masse de nos péchés, alors il va falloir qu'on applique pour, en quelque sorte, apaiser Dieu, une logique de droit féodal. Or, dans le droit féodal, quand un sujet commet une faute, il offense son suzerain. Et c'est au suzerain qu'il faut donc faire amende honorable. Un braconnier, même s'il braconne très loin des réserves de chasse de son suzerain, a quand même offensé le suzerain. Et c'est à lui qu'il devra rendre des comptes. Le fautif contracte une dette et il y va dorénavant de l'honneur du Seigneur qu'elle soit versée. Il n'est pas question de faire pitié parce que ce serait manquer à l'honneur du Seigneur. C'est ce qu'on appelle la satisfaction. C'est-à-dire contracter une dette, satisfaire à la dette. Le souverain est satisfait par l'amende payée et il passe l'éponge. Si le coupable ne peut pas payer, il est quand même puni pour que l'honneur soit sauf. Il paie par ses souffrances sa dette. Bah, remarquez que c'est absurde, mais remarquez qu'il y a encore de ça quand on dit qu'un prisonnier, aujourd'hui, après 20 ans ou 10 ans de prison, est libéré parce qu'il a payé sa dette. Ah bon? Il a payé? Il a payé quoi? À qui? C'est plutôt lui qui a coûté. C'est nous qui avons payé. La prison, ça coûte très cher. Mais l'expression est restée, vous voyez. En fait, c'est du droit féodal. Donc, reprenons. Cette logique doit bien pouvoir s'appliquer à Dieu le Père, puisqu'il est notre Seigneur. Mais l'amende ou la punition est proportionnée à la faute commise, bien sûr, mais aussi proportionnée à la qualité de l'offensé. C'est beaucoup plus grave d'offenser le roi que d'offenser votre Seigneur. Et combien plus grave encore d'offenser Dieu que d'offenser votre roi. Or, premièrement, le péché est tel dans son accumulation que nul, en vérité, ne peut en payer la dette. Deuxièmement, aucun homme ne peut payer puisque tous, nous sommes boiteux, nous n'avons pas assez de valeur. Alors, est-ce qu'on offre en réparation à son Seigneur un animal malade ? Et troisièmement, l'offensé est grandement offensé, puisqu'il est le suzerain des suzerains. Et donc il est hyper, hyper blessé, si vous voulez, offensé. Et donc un seul a de la valeur, une valeur suffisante, c'est le Christ. C'est donc lui qui va payer pour nous. C'est ce qu'on appelle, dans le vocabulaire médiéval, la satisfaction vicaire, c'est-à-dire la satisfaction de celui qui prend la place d'eux. Et ici, vous avez une illustration du XVe siècle où on voit un évêque avec un petit diable en face de lui. Pourquoi Anselme s'est-il engagé dans ce discours complètement piégeant ? Eh bien, parce qu'on lui posait la question. Le moine Boson reprend la logique de la rédemption. Il dit, si Jésus, et vous voyez qu'il va mal comprendre le mot rédemption, si Jésus vient racheter son bien, nous, les hommes, jusqu'à là c'est très bien, et qu'il va jusqu'à offrir sa vie pour restaurer notre héritage, à qui paye-t-il ? Sinon, à celui qui nous a pris, à celui qui nous a capturés dans ses pièges, à celui qui nous a réduits à l'esclavage, Satan. Donc, Jésus s'offre à Satan. Jamais de la vie, dit saint Anselme. Alors, explique-nous, répond Boson. Et Anselme, au lieu de rectifier le vocabulaire de la dette à payer au souverain offensé, ce qu'il aurait dû faire, s'y engouffre. Parce que c'est la logique de son époque et de son milieu. Il est lui-même d'une famille aristocrate. Il n'aurait jamais dû aller dans ce sens. En effet, le plus important, ce n'est pas de payer. Le plus important, c'est de réorienter l'homme dévoyé. Mais reprenons la logique d'Anselme. Il répond à Boson en lui disant « Mais pas du tout. Le Christ ne doit rien à Satan, mais tout au Père. » Comme chacun d'entre nous. C'est au Père, donc, qu'il va payer la dette amoncelée pour nous et que nous sommes incapables de payer pour rendre justice à l'offensé, Dieu le Père. Et donc, vous voyez, la boucle est bouclée, la logique dans ce type de culture féodale. Alors, évidemment, c'est une explication, et pourtant, elle a eu énormément de succès, hein. C'est une explication qui est très bizarre, quoi. On va voir pourquoi. Donc, quatre remarques sur ce point. Quand je dis qu'elle est très bizarre, on peut même dire qu'elle est très perverse. Donc, quatre remarques sur ces points. Premièrement, tout d'abord, est-il bien vrai que nos fautes, là, vous voyez un gamin pris les doigts dans le pot de confiture, est-il bien vrai que nos fautes, nos péchés offensent Dieu ? Il y aurait là tout un vocabulaire à reprendre sur ce qu'est le péché. Ça offense Dieu, vraiment ? Mais ça, vous le verrez en cours d'anthropologie, hein, le troisième cours. Pour qui nous prenons-nous pour croire que nos petites misères, nos petits comportements misérables offusquent qui que ce soit ? Deuxièmement, et c'est bien pire, pour qui prenons-nous Dieu ? Il n'a pas ces petits défauts de mesquinerie, d'orgueil que nous portons? Ne projetons pas sur Dieu nos propres tares. Le petit marquis offusqué devrait aller faire du sport ou boire du jus de carotte non traité. Et c'est, je dis souvent quand on me demande conseil, que 80% de nos vexations ne viennent pas de celui que nous croyons être offenseur, mais viennent de nous, de nos susceptibilités. Et donc évitons de faire de Dieu une sainte nitouche, quelqu'un qui serait offusqué. Et pourtant, ça rentre dans le vocabulaire anselmien. Troisième remarque, évidemment, quand nous regardons ce que nous avons fait de ce monde, et là, ils ont probablement raison, le côté incommensurable des fléaux dépasse, semble dépasser toutes nos forces humaines. Mais ici, il n'est plus temps de parler de punition ou de vexation. Ça servira à quoi? Mais de conversion. Ce n'est pas en faisant payer à qui que ce soit la facture que le monde répondra à sa vocation de créature, de laquelle nous l'avons éloigné. Et enfin, quatrième remarque, à propos du Père, ce n'est pas son honneur qu'il faut défendre, mais sa miséricorde. Ce n'est pas tant nous qui nous efforçons de remonter vers lui que lui qui tente sans cesse de nous rejoindre. Et c'est même toute la théologie de l'incarnation, il est venu chez lui, il est venu chez nous, et quand il vient chez nous, il vient chez lui. Évidemment, il faut répondre, il faut que nous répondions à cette venue. Mais répondre, se convertir, s'ouvrir, ne consiste pas à souffrir. Et ben, je fais souvent, pour expliquer cette histoire-là d'offrande, je dis souvent, s'offrir, c'est s'ouvrir. Voilà, ce n'est pas une souffrance, c'est au contraire le bonheur, s'ouvrir. Donc voilà pour les contaminations médiévales. Vous voyez que c'est du lourd, hein. C'est du lourd et Dieu sait, c'est le cas de le dire, le succès que ça a eu. Bah, parce que c'est pervers et ça plaît. Alors, voici le plan à nouveau, hein. Passons à une troisième contamination. Ce sont les pratiques sacrificielles. Je dis bien pratique et non pas théorie. Là, ce qu'on a vu, c'est de la théorie avec le droit féodal. Mais les pratiques sacrificielles sont de partout. Et ce sont en effet d'abord des pratiques. C'est-à-dire il faut faire quelque chose. Il faut bien faire quelque chose. Quand on ne sait pas trop quoi dire, bah, on fait un geste parfois dérisoire, mais on fait. Que pouvons-nous faire? Vous savez cette question. Et qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Pour réparer, pour restaurer, pour consoler, pour supplicier, pour supplier, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le geste, même dérisoire, a une efficacité. C'est une des raisons du succès universel du sacrifice. Il fait faire quelque chose. En réparation, en consolation, avec un effet de catharsis, enfin voilà. Je vous propose, ici, je vous signale quelques livres. Hein. Alors, vous avez cet excellent ouvrage dirigé par Frédéric Lenoir, vous savez, c'est ce journaliste, philosophe, spécialiste du fait religieux. C'est pas lui le meilleur auteur, hein, mais il a fait appel à des quantités d'auteurs dans cette encyclopédie, et c'est vraiment remarquable, chez Bayard. Et donc vous avez d'abord un exposé des religions, les unes après les autres, c'est pas mal fait. Et puis ensuite, vous avez les grandes transversalités des religions, et entre autres, le sacrifice. Et puis vous avez aussi, ça je le recommande beaucoup, ces deux livres-là, bon, très connus, René Girard, La violence et le sacré, on va y faire allusion tout à l'heure, et puis cet excellent petit bouquin, il est petit, hein, dans la collection Essai L'Armatan, rouillé d'orfeuille, écrit un livre remarquable, Sacrifice. Donc voilà. Alors, de mon côté, je vous propose trois points. Donc, l'étymologie, ah ça c'est très important, parce que le mot même est ce que les Allemands appellent un Urwort, c'est-à-dire un mot racine, avec des racines qui vont dans tous les sens, et qui vont puiser leur signification dans plusieurs sens. Donc c'est très intéressant, cette étymologie. Ensuite, on verra que les pratiques païennes sont universelles, et donc elles cohabitent avec la théorie du sacrifice. Et puis on verra enfin la culture juive qui se distingue un petit peu des sacrifices païens. Alors tout d'abord, le mot sacrifice. Le mot même peut nous en apprendre beaucoup. Sacrificium vient de sacer, qui veut dire sacré, et facere, faire. Faire sacré, rendre sacré. Vous voyez, déjà là, ça nous libère un peu du sacrifice sanglant. Sacrifice, ça ne veut pas dire exécuter. Ça veut dire faire sacré. Mais il y a un autre mot très proche, un concept voisin, si vous voulez, un cousin, hein, qui est consacré. Consacré, c'est cum, avec, sacer, le sacré. Ça veut dire quelque chose qui rejoint le sacré. Consacrer quelque chose, c'est le faire rejoindre le sacré. Or, sacer est chargé d'une autre étymologie, une autre origine sémantique. Hein, ça, c'est Monsieur Alain Ray, hein, qui m'informe sur tout ça. C'est sécaré, qui veut dire couper, retrancher, éloigner. Et je vous mets cette très belle image de Turner, qui s'appelle « Le lointain ». Et donc, ça, c'est ce mot sacré comme en tant que retranché, reculé, si vous voulez, confirme bien la racine hébraïque de « kadosh », le saint, et la racine, c'est « kad », qui veut dire couper, écarter, retrancher. Et cad, on le sent presque dans le mot. Hein. Et le saint avec un S majuscule, Dieu autrement dit, est distant, lointain. Hein. C'est ce que Emmanuel Lévinas ne cessera de répéter contre le christianisme qu'il accuse d'avoir répandu un sacré diffus. Alors que pour lui, le saint, Dieu, il est absolument retranché. Bon, donc voilà pour l'étymologie. Donc, le sacrifice, la consécration vont porter tous deux les mêmes idées de réserve, de distance, d'écart, d'interdiction et leurs complémentaires d'approche, de participation, d'interdiction. Dans notre rapport au sacré, quelque chose de nous s'oriente vers l'offrande, l'ouverture, soit sous le mode de la privation, c'est perdu pour nous, on l'abandonne, soit sous le mode du lien. Ah, c'est, on devient saint, comme dans consacré. L'idéal, évidemment, c'est quand les deux se complètent. L'un va vers la perte, l'autre vers l'ouvert. Il y a dans l'idée de consacrer, de faire passer au monde saint, au lointain, quelque chose qui est nôtre, on va le revoir ça. Ce qui est sacrifié, si c'est vraiment à nous, fait donc passer à un autre statut ce qui est nous. Et donc c'est un objet pontife. C'est nous, en quelque sorte, qui passons là-bas. On va revenir sur ce point. Mais si on prend le mot sacrifié davantage par son côté consacré, le sens est modifié et on ne va plus vers la perte, l'arrachement, que sais-je, mais consacré prend le sens d'une réserve à un usage, réservé à un usage, une sorte de prélèvement amplifiant. C'est-à-dire c'est prélevé sur nos biens, mais ça va amplifier sa valeur et sa signification. Ce qui est réservé à un usage spécifique trouve un nouveau statut. C'est, mon illustration est bien étrange, enfin c'est ce que j'ai, c'est le seul truc que j'ai trouvé. Mais sinon, avec cette photo de soldat, la notion de réserve est elle-même d'une très grande richesse. Elle est moins privative, hein. Elle est moins privative, négative que celle de sacrifice. On fait appel à la réserve. On a une réserve de provision. Ou bien on dira d'un homme qu'il est réservé, c'est-à-dire qu'il est discret. Et donc tout ça, vous voyez, tout ça, ce sont les racines de ce Urwort sacrifice. À l'inverse, hein, pour inverser cette très riche exploration que je viens de faire, bah, il faut bien reconnaître que notre période actuelle a comme écrasé ces valeurs-là par un sens parfaitement stupide du mot sacrifice, qui est lexicalement et psychologiquement très négatif, privatif, que la notion de sacré n'avait pas forcément. Et donc le sacrifice, c'est lesté de l'idée invasive de privation. Voilà, donc, et c'est pour ça qu'on a tant de mal à comprendre ce mot. Voilà, faire des sacrifices semble être le seul sens qu'on comprend à cette extraordinaire richesse sémantique. Après cette petite exploration étymologique très importante, allons visiter un peu les pratiques païennes que j'ai dites universelles. Là, vous trouverez également dans des anthropologues du phénomène religieux, Mircea Eliade, Julien Ris, ce que je vais vous exposer maintenant. On relève en effet quatre strates de signification du sacrifice, ou plus exactement de fonction du sacrifice. À quoi ça sert un sacrifice? Comment ça marche? Quelle est sa fonction? La première fonction, on passe l'image, la première fonction, c'est la fonction de pontife. Le sacrifice appartient aux fonctions de passage, un pontife, un média. C'est-à-dire qu'il permet une sorte de transfert du visible à l'invisible. Ça peut être le monde des morts, le monde des anciens, l'au-delà, les divins. Dans toutes les religions, il y a quelque chose qui est un autre monde, comme si le monde était doublé d'une autre réalité. Eh bien, le sacrifice fait passer là-bas. Grâce à la chose sacrifiée, quelque chose de nous, si c'est authentiquement nous-mêmes, passe là-bas. Et donc, nous y sommes, en quelque sorte, nous y a envoyé une sorte de délégation. C'est par excellence le sacrifice d'Holocauste chez les Juifs. Il y a plusieurs types de sacrifices chez les Juifs. L'Holocauste, ça consiste à détruire entièrement l'animal, détruire par le feu. Et donc, il passe tout entier là-bas, là-haut, sous forme de chaleur, sous forme de fumée. Et avec lui, passe aussi là-haut nos prières, nos attaches, nos demandes. Seconde fonction du sacrifice, il entre, c'est incontestable, dans une pratique de marchandage, il faut bien dire les choses. Je t'offre cela, mais tu dois me donner quelque chose en échange. Donc on offre à Dieu des bœufs, des agneaux, etc. Mais en échange, on espère bien. La pluie, la fécondité, ou la victoire sur ses ennemis. Plus je donne, plus tu dois me donner. Du point de vue chrétien, ça n'est pas recevable. Ni d'ailleurs pour la religion juive, nous verrons ça. C'est dans cette seconde catégorie du marchandage qu'entre un étrange commerce. Contre les chrétiens ont beaucoup lutté, et déjà les juifs, ont beaucoup lutté contre cet étrange commerce. Vous le voyez ici avec une illustration de Baal. La divinité tutélaire est censée assoiffée de sang et en colère. C'est drôle, enfin c'est pas drôle du tout, c'est bizarre cette idée de Dieu. Et pour éviter, et pourquoi on a cette idée de Dieu? Eh bien parce qu'on projette le mot de Dieu sur des forces qui nous dépassent infiniment. Et ces forces qui nous dépassent infiniment pourraient bien, nous en avons fait l'expérience, pourraient bien nous détruire. Et donc on pense que ces forces qui nous dépassent infiniment sont assoiffées de sang, de destruction, de colère. Et pour éviter que ces fléaux ne s'abattent sur nous, alors on leur offre des sacrifices. C'est assez terrible, Et là, vous avez une illustration d'un album d'Alix. Et en fait, vous savez que les Romains ont beaucoup, enfin probablement, enfin, bon, l'histoire hésite encore à le dire clairement, mais les Romains ont développé tout un discours sur ces rites barbares de Carthage pour mieux détruire Carthage. Du genre, en gros... je vous détruis, mais c'est pour votre bien, je détruis le mal. Quatrième fonction du rite, celle-ci est très connue. Le sacrifice est très marqué par les distinctions pures et impures. Pour guérir de cette culpabilité, induite par l'idée que je pourrais ne pas être, ne plus être pur, que je suis en quelque sorte indigne, que c'est ma faute. Alors il faut une médecine qui restaure cette pureté perdue. Les Juifs marchent beaucoup là-dessus. Hein. On perd la pureté, par exemple, quand on perd du sang, etc. Et le sacrifice fonctionne alors d'autant mieux qu'il coûte. Et ça me coûte cher, et donc je vais être restauré. Il faut arracher l'impureté ou le péché. Si ça ne coûte pas, ça ne marche pas. Et donc on va sacrifier beaucoup, et on va le perdre. Ce qui va conduire à deux trucs très pervers. Hein. Premièrement, nettoyer, c'est douloureux. Et deuxièmement, plus je souffre, plus je suis méritant. Voilà. Et ça va donner d'une manière purement rituelle, le rituel du bouc émissaire chez les Juifs. Donc voilà, vous voyez, pour les fonctions du rite. Comme je viens de parler des Juifs. Excusez-moi, je me suis trompé, c'est le quatrième point là, avec cette image. Hein. Plus ça coûte, etc. Plus ça coûte, plus c'est douloureux. Voilà, j'ai pas passé l'image. Vous voyez l'image où il y a marqué purification. Non, c'est bon. Voilà, vous êtes remis. Donc le bouc émissaire, vous avez compris. C'est un effet de catharsis. Hein. On se décharge sur le bouc émissaire et on l'expulse au désert. C'est une fonction très efficace du sacrifice. Et le quatrième, c'est ce que je viens de vous dire, il faut que ce soit douloureux, et ça marche mieux. Donc, vous affichez maintenant le sous-plan, étymologie, pratiques païennes qui sont universelles. Allons voir la culture juive. Parce qu'elle conteste déjà tout ce qu'on vient de voir et qui semble universel. Les pratiques sacrificielles juives sont en effet différentes, c'est assez complexe. Le livre du Lévitique nous décrit toutes sortes de sacrifices et je les classe en trois genres. Il y a d'abord, enfin c'est pas moi qui les classe, c'est de manière classique. Il y a d'abord c'est très beau ça, c'est vraiment remarquable. Il y a les sacrifices de prémices. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont les premiers fruits des moissons ou des récoltes qu'on offre à Dieu. Et c'est un signe que, en fait, tout ce que nous allons gagner, nous le devons. Tout ce que nous travaillons, en fait, nous est donné. Le travail suit le don. Et même, travailler est un don. Et donc, on redonne une part à Dieu. Là, ici, vous voyez une photo dans les premiers kibbutz d'Israël en 48, c'est des célébrations du premier Omer, c'est-à-dire c'est un volume de grains, je ne sais plus à quoi ça correspond, enfin un gros baquet, quoi, et on l'offre à Dieu, on l'offre au temple. Évidemment, quand il s'agit de grands animaux, on les remplace par des petits, et quand c'est un homme, le premier-né mâle d'une famille, évidemment, on lui substitue un sacrifice animal. Hein. C'est ainsi que Saint Joseph, appliquant la loi, ira offrir deux tourterelles au temple. C'est un sacrifice de substitution. Mais là, la signification est très intéressante. Hein. Ça veut dire que tout vient de toi. Tout vient de toi, ô Père très bon, et donc, je t'en offre une part comme une prière d'action de grâce. Donc ça, c'est une première série de sacrifices. Donc, vous voyez, du premier Homer jusqu'à l'offrande du temple pour les premiers-nés. Deuxième série, ce sont les sacrifices de réparation ou dits expiatoires. Ce sont clairement des rites pénitentiels et ils sont légions. Ils sont innombrables. Pourquoi ? Parce que dans la loi, il y a 613 prescriptions. Et donc, sans cesse, vous êtes pris à défaut. Sur les 613 prescriptions, il y en a au moins 500 que vous n'avez pas pratiquées. Et donc, les sacrifices, en quelque sorte, ne cessent pas au temple de Jérusalem. On a toujours quelque chose à se faire pardonner. Il y a toujours des choses qu'on n'a pas faites. Et donc, c'est ça, le sacrifice de réparation ou d'expiation. Il y a une espèce d'obsession de ce qu'on n'a pas fait. Une espèce de culpabilité augmentée. Et donc, les sacrifices, finalement, apaisent cette culpabilité. Le problème de cette pratique du temple de Jérusalem, ben c'est que ça mécanise la faute. La faute et son pardon, c'est-à-dire finalement, somme toute, peu importe, bon, vous avez trompé votre femme, vous avez volé le fisc, bon, ben, allez, vous allez sacrifier un gigot et c'est bon, quoi. Ben voilà, et donc ça je sais pas comment dire, ça mécanise, voilà, c'est le mot. Ça n'appelle pas à la conversion. Ça n'appelle pas à la conversion, ça appelle au sacrifice. Et voilà le pervers que nous allons garder et qui va rester dans les mémoires. Nous ne voulons pas nous convertir. Nous préférons le sacrifice pénitentiel. Troisième catégorie, alors celle-ci, évidemment, très efficace et très connue, c'est les sacrifices d'union, ou si vous voulez, les sacrifices de communion. Sont bien connus déjà dans la culture et dans les cultes païens. Par exemple, ce qu'on appelle les hécatombes chez les Grecs. Peut-être que vous ne le savez pas, les hécatombes, en fait, c'est pour la fête de Zeus. On sacrifie 100 bovidés. Hécatombe, ça veut dire ça. Une centaine de sacrifices. 100 bovidés. On répand le sang de ces animaux, donc c'est une quantité incroyable, dans les champs alentours. Ça, c'est très impressionnant. Comme pour obtenir une sorte de fertilité. Puis, on partage la viande qu'on consomme sur place dans d'immenses festins qui durent une semaine, établissant donc ainsi une communion entre les dieux, les hommes et la terre, et une communion entre les participants à ce festin. Ah, donc, vous voyez, c'est ce qu'on appelle les sacrifices de communion, et vous en connaissez un, évidemment, c'est la Pâque juive. La Pâque juive est typiquement un sacrifice de communion. Donc voilà pour ces catégories. Maintenant que nous avons observé ce qu'est un sacrifice, quelles sont ses fonctions, vous voyez bien en quoi il y a eu contamination de l'idée de rédemption par celle de sacrifice. Pratiquement même, il y a eu substitution de l'un sur l'autre. Donc oui, Jésus nous fait passer de notre condition de fils d'homme à fils Dieu, il ouvre les portes du ciel, il est le rédempteur, il est Goël, il dénie la victoire de la mort, il lutte contre, il va vaincre la mort, oui, ça c'est vrai, mais non, il n'y a aucun marchandage, la passion du Christ, sa souffrance et son sacrifice ne sont pas le prix nécessaire pour obtenir le pardon. Toutes ces théories sont extraordinairement régressives. Le judaïsme avait déjà critiqué ça, on va le voir dans un moment. Il y a eu très nettement, depuis le XVIIe, chez nous, dans le christianisme, une régression, un recours à des explications archaïsantes. Ces héritages qui vont alourdir le message de l'Évangile jusqu'à le déformer. Demandons-nous pourquoi ça traîne encore de nos jours. Eh bien, il y a deux raisons. Deux raisons pour lesquelles ces idées, pourtant perverses, traînent encore et sont encore diffusées. Première, nous portons bel et bien, enfin, je devrais dire, nous portons moche et mauvais, j'invente une nouvelle expression, le contraire de « nous portons bel et bien », nous portons bel et bien ces idées en nous que les psychologues pourraient décrire mais difficilement soigner. Car en effet, ces tendances à user de la violence et de la souffrance dans des rapports de soumission, de marchandage, ces projections que nous portons sur les divinités à notre image amplifiée, tout cela existe depuis la nuit des temps. Et dans tous les comportements sociaux, ou religieux. C'est-à-dire, nous projetons sur Dieu le pervers que nous portons. Donc voilà, ça c'est la première raison. La seconde raison de ce succès, c'est que ces perversions, j'appelle ça ainsi, mais on pourrait dire plus soft, ces dérives lexicales, ont été prêchées par nous. Pas tant au Moyen-Âge, hein, d'ailleurs, parce qu'au Moyen-Âge, on vivait dans cette culture ambiante, mais du droit féodal, forcément. Mais à l'époque moderne, on les a prêchés. Souvenez-vous, Albert Camus, hein, dans La Peste. Ça a commencé après les différends avec la Réforme, jusqu'au 19e. Et alors évidemment, hein, c'est un peu lourd comme héritage. Donc voilà pour ces contaminations. Je fais une pause, hein, et vous allez ouvrir un troisième document son. Allez, à tout de suite.